Vous écoutez le Maki, le podcast de l'Amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants, l'AMECAS, affiliée à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Dans les séries d'épisodes qui vont suivre, que nous avons intitulées Les damnés de la Terre, nous irons à la rencontre d'étudiants africains ou afro-descendants venus en France pour les études. À travers des témoignages, il sera question de leur perception individuelle des systèmes éducatifs, économiques, politiques, sociaux et culturels du pays d'accueil et de leur pays d'origine, à savoir le Brésil, les États-Unis d'Amérique, la Martinique, la Guadeloupe, Mayotte, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo.
Je m'appelle Julie Carla Mbakob, je suis camerounaise, je suis avocate spécialisée en contentieux international des affaires et je suis également cofondatrice du Club 54, un club de réseau à destination des jeunes travailleurs et étudiants africains dans le monde. Et j'ai 24 ans. Le Cameroun, c'est chez moi, l'endroit où je suis née, où j'ai grandi, où j'ai vécu, c'est un pays, en tout cas pour les endroits que j'en connais, parce que je peux pas parler du Cameroun dans son entièreté, de ses 10 régions, de ses 22 millions d'habitants, je ne maîtrise pas tout. Mais pour ce que j'en sais, c'est un endroit plein de difficultés et de bonnes choses, on mange bien, où les gens sont très vivants, joyeux ou pas, qui ont la réputation d'être agressifs, mais en même temps travailleur, donc c'est beaucoup de choses, mais c'est surtout chez moi. Alors, je ne sais pas si on peut vraiment dire que l'idée est venue de quelque part, parce que je suis arrivée en moyenne, donc moi je suis née au Cameroun, et je suis née en 97, et en moyenne section, donc peut-être en 2000-2001, j'ai atterri à l'école française. Et j'ai fait l'école française de la moyenne section jusqu'à la terminale. Donc il était entendu depuis toujours dans la tête de mes parents que j'allais partir pour mes études. Ça a jamais été un questionnement, en fait. Donc, je sais pas si vraiment l'idée est venue à un moment, parce que quand on a commencé à parler d'études secondaires, j'ai fait mon Parcoursup, à l'époque, c'était ça. Et on a juste fait, est-ce que c'était même Parcoursup? Je sais pas. Bref, on a fait le système de, pour partir, c'était juste ça, et j'ai fait les concours, et j'ai fait les dossiers, et voilà. Il a jamais été question d'autre chose pour moi, quoi. En gros, moi, je voulais faire Sciences Po à la base. Et donc, obviously, j'ai pas fait Sciences Po. Donc, vous connaissez, c'est assez simple, hein. Mais j'ai passé les concours pour les admissions Sciences Po AEFE. Donc, c'est sur dossier. Ensuite, il y a des oraux. Et donc, j'avais passé les dossiers. C'était bien passé. On avait beaucoup d'espoir parce que la génération avant nous, dans mon lycée, je crois qu'il y avait personne qui était parti. Et aux admissions, c'était catastrophique. C'est-à-dire que j'étais vraiment bien préparée. J'avais un professeur de SES qui m'avait beaucoup préparée. On était bien lancés. Et il s'avère qu'on m'a posé des questions un peu complexes et difficiles à répondre pour une étudiante en terminale qui a encore des rêves plein les yeux, qui a beaucoup lu Jeune Afrique et qui est complètement révolutionnaire. Et donc, à un moment donné, pendant mon oral, on me demande si je trouve que Paul Biya est un dictateur et je dis non et c'est la fin pour moi. Donc voilà comment je me suis retrouvée à pas aller à Sciences Po. Et après, du coup, j'ai fait mes admissions, donc je sais plus c'est sur quoi le logiciel, mais donc c'est équivalent au Parcoursup à l'époque. Et j'envoie mes dossiers partout, et c'est assez simple, hein. T'envoies tes bulletins, quelques lettres de motivation, et j'ai été retenue dans des prépas. Il y avait un truc, lettres, maths, je sais plus comment ça s'appelle, bref, prépa. Et fac de droit, donc l'Institut catholique de Paris, et je crois que j'avais été sur liste d'attente pour la Sorbonne. La Sorbonne, comme c'est complètement public, c'est un peu plus compliqué pour les étudiants qui se sont dans les systèmes AEFE. Et donc, j'ai fini par choisir l'Institut catholique de Paris parce que je me voyais pas faire une prépa, j'avais pas envie. Si j'avais pas fait de concours pour les écoles de commerce, c'était pas pour rien. Et donc, je suis allée à l'école, à l'Institut catholique de Paris, quoi. Je me suis retrouvée à faire ce que je voulais faire quand même depuis longtemps, c'est-à-dire faire du droit. Ma mère a grandi entre la France, la Chine et le Cameroun. Et donc, il y a beaucoup de familles à ma mère qui sont ici. Son frère est là, et même de la famille à mon père aussi, mais comme dans beaucoup de familles, je suis proche de la famille de ma mère. Et donc, j'ai mon oncle qui est là, j'ai pas mal d'oncles, etc., qui sont là. J'avais tous mes amis avec qui, du coup, j'avais fait mon lycée français, donc mes amis de terminale, etc., qui sont venus en même temps que je me suis pas du tout retrouvée seule. Ça a pas été une difficulté quand je suis arrivée. On a préparé mon départ, c'était difficile, parce qu'on a bien dû se rendre compte que ça allait pas du tout être les mêmes frais, les mêmes charges. Mais à part ça, je suis arrivée, comme j'étais arrivée les années précédentes quand je venais pour les étés, et je suis venue chez mon oncle. Ensuite, il a fallu chercher où j'allais habiter. Et puis voilà, quoi, j'étais bien entourée et bien accompagnée. Au début, je suis restée dans mon groupe d'amis. J'étais entourée de Camerounais ou à défaut de personnes qui avaient grandi au Cameroun, toutes. Mes trois premières années, j'étais entourée que d'eux. Je m'étais fait quelques amis à la fac, mais franchement, je me suis pas sentie dépaysée et j'avais tout le temps le lien parce que j'étais entourée de personnes qui avaient grandi au Cameroun comme moi. Ma famille qui est ici, bah, c'est des Camerounais, quoi. Donc, c'est des Bamileke, ils font le rendez-vous du Menzon chaque année, il y a les fêtes, les deuils, etc. Tout l'environnement dans lequel j'ai évolué en dehors de l'école pendant mes premières années, c'était un environnement camerouno-centré. Donc c'est comme ça que j'étais rattachée au Cameroun. Déjà, j'essaye de rentrer quand je peux, quand j'ai 1200 euros à dépenser, parce que ça coûtait une blinde. Donc j'essaye de rentrer, je suis tout le temps en contact avec mes parents. Et en fait, après, j'ai décidé de m'ouvrir un peu. Quand je suis arrivée à la Sorbonne, je suis entrée dans une association, je suis entrée à la MICAS. Et j'ai rencontré d'autres personnes, d'autres origines, d'autres ethnies, d'autres cultures. Et donc j'ai décidé de m'ouvrir un peu plus. Et je me suis ouverte finalement au Cameroun différemment, en rencontrant d'autres Camerounais, donc des personnes qui n'avaient pas du tout vécu la même expérience du Cameroun que moi. Et voilà, à partir de là, j'ai un peu plus ouvert mon esprit, j'ai un peu plus... je pétais moins haut dans mon estime sur ce que je pensais être l'africanité, et donc j'ai un peu reconstruit tout ça. Mais à la base, je gardais un lien avec le Cameroun parce que je traînais que autour des Camerounais, quoi. En fait, je pense que c'est le cas pour beaucoup de Camerounais. Je pense pas que ce soit limité à des gens qui sont dans les lycées français, mais je pense que beaucoup de Camerounais regardent TF1, iTélé, en tout cas à l'époque, iTélé, LCI, etc. Entre les télénovelas et entre Canal 2 et consorts, il y a beaucoup de télévision et beaucoup d'attaches à la France. Donc en fait, moi, j'avais pas des attentes. Je voyais la France à la télé, quoi. Tu vois, assez significativement, je voyais les journalistes français, les problématiques françaises. Donc j'avais pas trop d'attentes sur la France, j'avais des attentes comme tout le monde sur la vie étudiante. Je vais devenir une star, je vais avoir un super grand appartement, je vais marcher en talons tous les jours, c'était ça mes attentes. Mais la France en elle-même, je me rappelle pas en tout cas avoir eu d'attentes, des illusions choc, tu vois. J'étais plus en mode la vie étudiante, qu'est-ce que ça va être. Et après la grande difficulté qui a été pour moi, c'est que quand j'étais dans un petit lycée, j'ai eu la meilleure note au bac de mon année. Enfin vraiment, j'étais genre dans ma bulle. Et dans un petit lycée, c'est facile, dans sa bulle. Je suis arrivée, j'étais une nobody. Parce que je suis arrivée dans une fac soi-disant élitiste où tout le monde avait son bac avec mention. C'était pas une réussite de ouf d'avoir son bac avec mention là-bas. Et j'étais pas quelqu'un, en fait. Et ça a été difficile pour moi. En plus, c'était une fac privée, donc on était 120 par promo. Donc c'était déjà pas beaucoup. Mais je suis arrivée, j'étais là. On était deux noirs la première année, la deuxième année, il s'est fait expulser, mais ça n'a pas été la difficulté pour moi. La difficulté, ça a été de me dire, en fait, je suis personne ici et il va falloir que je recommence tout. C'était plus ça qui était difficile. Je sais pas. Franchement, quand je suis arrivée, je me suis juste dit, ok, on est deux. Et à côté de ça, je crois qu'il y avait 5 métis. Donc au total, sur 120, on était 7 personnes racisées et dont un mec. Pas de 7 personnes racisées, je dis bêtises. 7 personnes non blanches arabes, parce qu'il y avait des arabes. Mais voilà. Et honnêtement, je sais pas si ça a joué sur mon estime de mes capacités. J'ai pas fait ce constat, en tout cas. Je sais que je me suis sentie, c'était chelou, obviously. Mais j'étais plus en mode, ok, bon, bah, maintenant faut faire avec, faut considérer que les gens ici, à la fin des cours, ils vont aller boire des bières et fumer, et c'est pas mon délire, c'était pas le délire de mes autres camarades, du coup, mes autres camarades métis, quoi. Mais du coup, je traînais avec elle parce qu'on avait le même délire. Mais est-ce que ça a joué sur mon appréciation de mes capacités, ma confiance en moi? Non, pas vraiment. Pas à ce stade, en tout cas. Ça a été plus difficile après, en M1, etc. Mais en licence, j'ai pas eu de choc tout de suite. D'accord. Déjà, je pouvais pas imaginer qu'on allait me dire que je parlais bien français. Ça m'a pas traversé l'esprit. J'ai grandi dans un pays qui est bilingue, dont l'une des langues principales qui est parlée par 80% des gens, c'est le français. Ça m'a pas traversé l'esprit que ça allait être un sujet. Bon, ça en était un pendant les 5 premières secondes où on m'a rencontré. Après, ça en était pas un. Et après, il y avait des petites expressions. Par exemple, moi, je dis jus pour tout. Et j'ai compris qu'il y avait une différence entre le jus et le soda. Par exemple, tu vois, ces petits trucs comme ça où, moi, je vais chercher un jus et on me voit me revenir avec un Sprite et on comprend pas. C'est des trucs bêtes, des expressions ou des façons de parler que tu comprends qui sont pas... Bah, c'est pas la norme, quoi. Tu crois que tu parles... Mais c'est pas... Après, à part ça, C'est des petites expressions au quotidien, mais rien qui m'empêchait en tout cas moi de fonctionner. Moi, quand j'étais au Cameroun, moi j'ai le passeport français depuis que je suis née avec. Et donc quand j'étais au Cameroun, je pense je me présentais comme franco-camerounaise en fait. Depuis vraiment, enfin toujours quoi. Je regardais télé, je voulais être Christophe Barbier. Enfin, c'était moi j'étais française aussi. Et en arrivant ici, je me suis jamais sentie aussi loin d'être française que depuis que je suis arrivée ici. Parce que je me sens pas spécialement chez moi, sans avoir eu besoin d'avoir un choc. J'ai juste constaté que ça me plaisait pas plus que ça d'être ici, je me retrouvais pas dans les problèmes des gens, je me retrouvais pas dans les discours des gens. Je suis pas convaincue que je me retrouverais dans les discours des gens, au Cameroun, là tout de suite, mais déjà plus. Et en fait, je comparais les problèmes. Je pense qu'à un moment donné, ça a été ça qui était difficile pour moi, c'est que je comparais les problèmes parce que je savais que j'avais pas, connu une enfance difficile ou quoi que ce soit, tu vois, mais j'ai grandi à Douala, j'ai vu de nombreux quartiers, de nombreuses réalités, et je savais que la retraite était loin d'être un problème, parce que on n'en est pas à avoir ça comme problème, tu vois. Je sais pas ce qu'il y avait comme souci quand je suis arrivée, je pense qu'il y avait, ouais, toutes les questions d'immigration 2015, premier anniversaire que je fête, c'est le jour de le Bataclan, en 2015, ouais, en novembre 2015. Moi, j'arrive dans ces problèmes-là. Et pour moi, c'est pas des problèmes. Je suis dans un pays qui est genre multireligieux à mort. Et il n'y a pas du tout ce type de difficulté. Genre, chacun vit dans sa religion sans problème. Mais les gens n'ont pas d'eau, les gens n'ont pas d'électricité, les gens n'ont pas à manger. Donc, ça me dépasse. Tu vois, genre, j'étais en mode, mais j'ai pas envie de vous écouter parler. Enfin, ça m'intéresse pas. Parce que pour moi, c'est des problèmes qui sont, pas quand on a plus de problèmes, mais quand on a déjà moins de problèmes qu'on peut se poser ces questions-là. Et quand on a des problèmes de base, de développement de base, on se pose pas la question de la retraite, on se pose pas la question de qui arrive par quelle frontière, etc. Les Centrafricains arrivent au Cameroun chaque jour, les gens se posent pas la question, tu vois. On n'est pas en train de dire ils vont venir voler le peu de nourriture qu'on n'a pas, tu vois, genre on se pose pas cette question. Et donc c'est plus dans ce sens-là que je compare en mode, ok, je suis vraiment pas à ma place, mais je suis vraiment pas chez moi parce que je constate que les problèmes que vous avez, c'est pas des problèmes pour moi. Et ouais. Voilà. Les revenus que tu fais dans un pays en développement, dans un pays pauvre, disons-le, même quand tu es bien loti, permettent de afford le lifestyle et le niveau de vie du pays en développement, mais pas du pays ultra développé. Ce qui fait qu'il y a un décalage entre ce que je coûte dans mes besoins de base, et encore plus loin dans mes envies, et ce que mes parents gagnent. Donc à un moment donné, il y a un trou quelque part, faut filer le trou, tu vois. Et donc, moi, j'ai commencé à jobber mes premières années. Je faisais des trucs pas trop réguliers, mission d'hôtesse, etc. Et en fait, entre la L2 et L3, je crois que j'ai fait des grosses missions d'hôtesse pour me permettre de partir faire mon stage aux États-Unis. Ça avait duré un mois. J'avais aussi fait recruteuse d'actrice au métro. Les gens qui te harcèlent pour que tu fasses des dons, c'était moi. Et puis après, j'ai donné des cours. Ça a été une humbling experience puisque j'avais donné des cours à un petit garçon qui avait des problèmes de développement. Il avait la dyslexie, mais pas que. Et donc c'était, enfin, qui suis-je quoi? Genre, c'était un peu difficile. Et puis ça avait été très intéressant. Donc c'est des petits trucs comme ça que j'ai fait et que je continue de faire aujourd'hui. Je suis en stage. Je suis à l'école d'avocat. Je suis en stage et puis parfois je fais des missions de test parce que ça met du beurre, plus que du beurre dans les haricots. Il y a vraiment besoin d'avoir des informations pour accéder à quoi que ce soit. Je pense aussi que, enfin, faut pas être naïf. Tout se construit depuis des lustres et donc on va pas tout déconstruire, mais il faut pas considérer que si les gens ont certaines choses, c'est complètement gratuit, c'est juste grâce à eux, tu vois. Moi, je suis en train de devenir avocate. Ma mère était juriste. Donc, j'ai lu vraiment 50 livres par année pendant de nombreuses années. Avec le vocabulaire, j'avais pas de difficulté. C'est des trucs bêtes, hein. Par exemple, le vocabulaire, j'avais pas de difficulté. Si j'avais voulu faire des trucs en maths, j'aurais pu parce que mon père était prof de maths. Ça aide. Et vraiment, ça aide. Et il y a des situations dans lesquelles certains parents font d'autres métiers ou d'autres professions ou ont moins le temps de transmettre. Et donc, forcément, sans entrer dans le cliché, c'est juste de la sociologie primaire. T'as moins d'acquis qui te permettent de mettre en avant moins de choses. Et donc, tu accumules du retard, tu vois. Et moi, j'ai sûrement accumulé du retard dans d'autres niveaux. Mais on n'a pas tous les mêmes acquis, on part pas tous du même niveau. C'est faux de dire ça. Et donc, forcément, si on part pas tous... Enfin, c'est le principe de l'équité. Si on part pas tous du même endroit, on n'ira pas tous au même endroit, même si on nous donne, at some point, les mêmes pseudo-chances, tu vois. Ça marche pas comme ça. C'est pas... Si tu pars de moins 10 et que moi, je pars de 3, on nous donne à chacun 50, on n'arrivera pas au même endroit. Faut être honnête. Et ça vend du rêve au sens où, que ce soit pour le retour ou même pour les opportunités ici, si l'objectif c'est ici ou si l'objectif c'est pour le Cameroun, donc à Douala, ça a du sens. Si l'objectif c'est ici, par exemple, d'avoir fait des études ici, ça a beaucoup plus de sens, c'est plus facile, pour l'intégration c'est plus facile, etc. Même pour le visa, voilà. Et si l'objectif c'est le Cameroun, si l'objectif c'est Douala, et c'est pas l'administration, c'est le privé au Cameroun, ça a du sens aussi parce que, pareil, pour le recrutement, c'est plus facile, ça donne des avantages. Donc moi, je pense que aujourd'hui, ça a toujours des avantages. L'objectif, c'est que ça en est moins. Parce que du coup, on s'en sort pas s'il y a une poignée de personnes qui réussissent à avoir accès à ces avantages. Donc l'objectif, c'est qu'on arrive à diluer le système de recrutement de façon à ce que ce soit égal d'avoir fait ses études à tel ou tel endroit, en fonction finalement des compétences et du niveau d'expérience. Mais aujourd'hui, à ce stade, je pense que c'est clairement toujours un gros avantage sur le CV, ouais. Bah, moi, j'aimerais bien, d'ici 5 ans, être partie de la France pour aller où je ne sais pas. Je veux juste aller là où mon diplôme me permet d'aller, faire des thunes, apprendre à travailler, à fonctionner différemment, parce que là où tu travailles, c'est aussi comme ça, ça te formate. Donc, je pense que s'ouvrir à d'autres cultures de travail, pas juste la culture, les voyages, machin, je mange, je découvre comment vous priez, enfin voilà. Même la culture de travail, je trouve que ça, c'est intéressant. Moi, mon rêve, c'est d'aller travailler à Singapour 2 ans, tu vois. Et donc ça, c'est le futur relativement proche. Et futur lointain, moi, je veux être quelque part en Afrique subsaharienne. Peu importe où, j'ai une appétence pour le Kenya parce que je suis allée, j'ai adoré et j'aimerais trop y retourner. Mais après, je vais être quelque part où je me sens à peu près chez moi et bien, quoi. Je pense que je dirais résilience parce que c'est comme ça que je me définis et je me définis par rapport à cette partie-là de ma vie, à cette expérience-là. Parce que moi, je pense que je suis venue avec pas mal de chance, entre guillemets, beaucoup d'accompagnement, etc. Mais ça reste difficile d'être complètement dépaysée, de sortir de sa zone de confort et de devoir faire avec, quoi. Genre de passer de « je vais à l'école tous les jours en voiture » à « je dois faire des jobs pour payer mes 13 » parce que finalement, c'est cher, quoi, enfin, tu vois. Et donc je pense que c'est la résilience, c'est pas forcément une bonne chose, je dirais, parce que bon, le discours de la personne racisée qui est forcément plus forte, on est fatigué, on n'a pas envie d'être fort, mais jusqu'à présent, parfois on a encore besoin d'être fort et donc voilà.
Merci d'avoir écouté le Maquis, le podcast de l'Amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants, l'AMECAS. Ces entretiens sont tirés des épreuves de tournage de Sekou, un collage documentaire écrit et monté par Liko Imale, avec Awan Jai et Ruth Kiadika à la caméra, Adia Diaby et Patricia Sylvia au son. Pour continuer la conversation, retrouvez-nous sur tous nos réseaux sociaux et via le hashtag LeMaquis. Les Damnés de la Terre, une production de l'AMECAS et de Togan Audio, avec la participation de Paris Mathieu Sarah, Eloi Yoni, Dandara Arujao da Silva, Mohamed Diaby, Saifuddin Ahamadi, Ambre Daibi Saram, Prodige Miakala, Julie Mbatop, Farel Bekono, Daniel Nikolaevski. Nos remerciements aux associations africaines d'Île-de-France, Paris Dauphine Afrique de l'Université Paris 9 Dauphine, Sorbe Outre-mer de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Afro-ESTP, ESMA de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ASPA de Sciences Po Paris, CS Afrique de Centrale Supélec, EFAB de l'EDEC, ESSEC Africa, HEC Afrique Antilles, le Club Afrique EM Lyon Alumni, MARIFA de l'Université Paris 2 Panthéon-Assas, X Afrique de Polytechnique, et enfin, nos remerciements au Labo 6 de la Maison des Initiatives étudiantes, la MIE de Paris.